Le prof, merci.
Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Radio Campus pour une heure de politique avec l'émission Panthère Rouge présentée par Claire, Lise et Cécile au micro et Antoine aux manettes. Après 2 mois d'absence radiophonique, j'ai envie de commencer cette émission par cette phrase « Besson, gros con, Sarkozy, petit zizi ». Voilà, c'est dit. Et je suis prête à payer les conséquences. Est-ce que je vais, oui ou non, me prendre un procès ? Comme dit le proverbe, tu peux coller un procès à une personne, tu peux coller 1000 procès à une personne, tu peux coller un procès à 1000 personnes, mais tu ne peux pas coller 1000 procès à 1000 personnes, ou un truc comme ça. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, je pense que la meilleure défense contre la politique de censure du gouvernement, c'est la contre-attaque. Et j'invite tout le monde à crier haut et fort avec moi, « Besson, ta politique d'expulsion est inhumaine, tu ne vaux pas mieux qu'un nazi, tu n'as rien d'humain, tu es juste une grosse merde. » je sais, balancer des insultes un peu à froid, sans l'argumentation qui va avec, ce n'est pas très constructif. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Besson et de ses procès à répétition, ni de Scatozizi et de sa gaïcha top modèle. Nous ne parlons pas non plus de la pédophilie chez les prêtres, qui d'ailleurs ne surprend absolument personne, ni du peuple polonais qui a bien plus de chances que nous. Nous allons parler d'un sujet dont les journaux n'ont pas parlé cette semaine, ni ce mois d'ailleurs je crois, le réchauffement climatique. Vous savez ce truc qui nous promet dans les meilleurs cas une augmentation de la température globale de 2 degrés avec des conséquences écologiques et humaines très graves, ou au pire des cas une augmentation de la température globale de plus de 6 degrés avec des conséquences écologiques et humaines, disons un bouleversement complet de l'humanité. Dans un premier temps, Lise va revenir sur ce qui s'est passé, ou plutôt sur ce qui ne s'est pas passé à Copenhague, quelles sont les conséquences politiques des accords signés là-bas. Puis nous reviendrons dans le Puy-de-Dôme pour parler d'une AMAP. Alors qu'est-ce que c'est qu'une AMAP et comment ça marche? Alors pour le savoir, nous appellerons Johan, qui fait justement partie d'une AMAP, chère AMAP, installée à Eda. Et pour finir l'émission, on va parler d'une de ces femmes super-héros qui ont marqué l'histoire, car non, l'histoire n'est pas réservée aux hommes. Cécile nous racontera Marianne, cette femme que l'on trouve dans toutes les mairies, au visage si beau et au torse si ferme, qui elle était et ce qu'elle représentait, et puis ce qu'elle est devenue et ce qu'elle représente aujourd'hui. Comment cette figure révolutionnaire est devenue une bonasse, une existence, un bout de caillou décoratif.
Check this out, real quick. I don't know if everybody know us personally as individuals, so what I want to do right now is I want to take this time out just to introduce everybody. So let me just introduce everybody. I need from the people up top, from the people on the bottom, and the people in the back on both sides to give it up when I say,
the music is the soul.
So what I want to do right now is I just want to go back a little bit with y'all. Check this out.
Yo, dressed in indigenous garb, sitting abroad. The words that I used to be awe, people applaud. Now watch how the brother adapt, fill in the gaps perhaps. I played the block until the curb collapsed. Now check the method and put the message on record. Promote the effort and change the neighborhood preference. And keep them guessing, from the old to the adolescent. It's J5 and it ain't no half step.
The wordplay we display can only convey the vibe when they DJ. Colonial repertoire from the NPC. Feel sorry for those who buy stand innocently. The menacingly divides man's courage in half. Alerted my staff, demolished every nerd in my path. The verbal to rap will tower over new day job. We do play live, ask the people who they thrive. The crew J5.
We vibe right into the night. Words that we write will calm down and settle your sight. Come to the light, the wordplay we display. Kept us moving from Tokyo to LA. Catch the feeling as we move on. Follow the groove, it steadily soothes. Got you all coming in too. Follow the crew, no mean thing, cause we tied like shoestrings. When we sing, you hear buzz like these things.
Thank you. Thank you. This is a very historical moment for us as Jurassic 5, man, for real, man. I feel like, we have some serious support out there.
Yeah.
When we play, you walk this way. We walk in faith, I hope you're feeling great. We came here tonight just to celebrate. Put your hands up high, you know we're rocking the place. If you came here to hate, you came way too late. Jurassic MCs, we came to set shit straight. Originality, check the way we originate. Style and communicate, check the way we demonstrate.
Countdown, 3, 2, 1, some rappers will speak the real and I can see through some. I focus my sound, I'm never selling surplus pounds. I'm working to smash and drown all you circus clowns. You try to diss and get your limbs crushed like ants' eggs. From my fate to where my Tim's touch my pants legs. We indestructible crush these magnificent kings. Be overbooked by overlooking insignificant things. That bullshit that you bring.
So you can all we bring this back for you. So you can all
vous écoutez Radio Campus, l'émission Panthère Rouge, et nous repartons donc à Copenhague. Bonjour Lise, ça bronze ?
Bonjour Claire, je ne sais pas si ça bronze, mais en tout cas ça chauffe pas mal. Et effectivement, on part à Copenhague. Je vous ai préparé un petit, une petite chronique sur qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague, quelles ont été, qu'est-ce qui en ressort. Donc Copenhague, c'était la 15e conférence de ce type sur le climat, la COP15, et la problématique a maintenant plus de 20 ans. Et donc de la conférence de Copenhague est né l'accord des 25 qui n'est en fait même pas un accord.
Mais c'est quoi si c'est pas un accord ?
Eh bien c'est une déclaration non contraignante concoctée par les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud à laquelle se sont ralliés 20 pays. Mais en fait 20 pays sur 55, ils étaient 25 sur 55, et à laquelle se sont vivement opposés d'autres pays classés du tiers-monde, genre Cuba, le Venezuela, la Bolivie.
Et pourquoi ces pays se sont opposés à cet accord qui n'est pas un accord ?
Pourquoi, en fait, ils avaient chacun leur raison, mais moi ce que je pense surtout c'est que cet accord, il est pire que s'il n'y avait rien eu. Et pourquoi ? Parce que c'est un retour en arrière en fait. Premièrement parce qu'ils ne font pas référence au scénario du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupe qui a été conçu par l'ONU, d'experts donc qui... En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des... Bref, ils essaient de prévoir, étant donné ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va être plus tard. Ils font des interpolations, quoi. Et le scénario le plus contraignant, en fait, le seul qui serait viable, dit clairement qu'il faudrait avoir une concentration de gaz carbonique entre 350 et 400 ppm. Elle est d'aujourd'hui de 390. Et donc, il faut diminuer notre concentration de CO2 dans l'air. Et si nous arrivons à passer sous la barre des 350, une étude parue dans Nature estime que nous aurions alors une chance sur deux de rester en dessous des 1,5 degrés d'augmentation et 85% de chance de rester au-dessous des 2 degrés d'augmentation par rapport à la température. Donc on a ces informations et l'accord, le fait que cet accord ne fait pas référence à ces vérités scientifiques, il parle comme ça du fait que c'est un grave problème, qu'il faut rester en dessous des 2 degrés, mais il dit pas comment ça se concrétise. C'est vraiment, c'est un mépris. C'est un mépris, je sais pas, de la science, et ça c'est historique quoi. Avant, Kyoto, tout ça prenait en compte les résultats des scientifiques. C'est mon premier point, mais il y a aussi un deuxième aspect qui est le fait qu'on perd le principe fondamental de responsabilité partagée mais différenciée. Donc jusqu'à aujourd'hui, on estimait que c'était normal que pour diminuer la concentration de CO2, on ne devait pas demander autant pour les pays en voie de développement que pour les pays déjà développés et qui ont déjà brûlé beaucoup d'essence en fait.
Et ça c'était ce qui était écrit dans l'accord qui avait été signé au préalable.
Voilà, en fait, dans tout ce qu'a fait le GIEC, dans Kyoto, tout ça, il y a clairement la différence entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Et pour les deux, il y a des buts. on dit bon ben là il faudra diminuer de temps et après on se débrouille quoi, mais il y a cette limite. Alors que là en fait l'accord, c'est un accord non contraignant qui dit rien du tout, qui dit chacun se débrouille comme il veut, on n'a pas de calendrier, on n'a pas de but donné par l'accord de Copenhague. Chaque pays devait donner son programme pour le 1er février. Voilà. Donc après on peut voir certains avancer, donc il y a plusieurs points, mais je ne vais pas toutes les dire, mais notamment, il y a eu la décision des 25 d'un transfert de moyens financiers aux pays en voie de développement. Il y aurait 10 milliards de dollars par an en 2010, 2011, 2012, qui gonfleraient ensuite pour atteindre 100 milliards à partir de 2020 pour aider les pays en voie de développement à lutter contre la déforestation, etc.
C'est gentil, ça, c'est vrai, c'est possible.
Effectivement, ça semble louche. Et bon, on verra si c'était vraiment un don. Mais on peut se demander, premièrement, comment ça va être fait, parce que l'accord parle de fonds publics et privés. Alors, qu'est-ce qui rentre dans cette somme? Est-ce qu'un investissement direct à l'étranger pourra être classé comme un moyen de financer pour lutter contre le changement climatique? Et certains pays ont déjà affirmé clairement qu'ils fourniraient cet argent, mais ce serait sous forme de prêts.
Oui, donc on va leur donner la dette climatique, après la dette qu'ils ont déjà.
Voilà, ils ont trouvé un nouveau
système de dette, c'est bien. Ouais, mais du coup, ils ont écrit un programme, puisque tu disais que c'était pour le 1er février.
Voilà, et ça, on l'a déjà. Et on peut analyser ces documents, et cela permet de projeter une hausse de température moyenne de la surface de la Terre de seulement 3,9 degrés. 2100.
Voilà. Mais c'est énorme. Enfin, c'est
bien sûr, ça entraînerait une série de catastrophes humaines et écologiques. Bon, mais
en plus de celles qui existent déjà, donc ça serait, enfin 3,9 degrés,
c'est vraiment c'est grave. Et donc c'est terrifiant, mais bon, il y a des bons côtés à la conférence sur le climat, notamment la mobilisation que cela a suscité. Donc par exemple, le 12 décembre, il y a eu une manif qui a rassemblé 100 000 personnes. Et c'est vraiment historique. La seule qui avait eu le seul précédent, c'était 200 000 Australiens qui étaient descendus simultanément en 97. Pour insister pour la ratification de Kyoto. En fait, l'Australie, c'est un pays qui subit de plein fouet l'impact du réchauffement climatique, et c'est pour ça qu'on a eu une telle mobilisation déjà sur cette question du climat. Alors, il faut noter dans cette mobilisation qu'il y a deux catégories clés. Premièrement, les peuples indigènes, et deuxièmement, la jeunesse. Et c'est intéressant de voir que la jeunesse, c'est... organisé là-dessus et à organiser, enfin c'est autogéré pour monter et faire des manifestations pacifiques, faire des actions de désobéissance civile et finalement, bien sûr, comme toujours, ont été durement réprimées. Et alors, je vais vous donner un petit florilège de slogans qu'on a pu entendre. Il y avait, alors excusez mon accent anglais, « Planet first, people first », « Change the system, not the climate »,« Climate justice now »,« Planet not profit », Bla bla bla, act now, nature, doesn't compromise. Voilà, donc en fait, ça montre que c'est pas des gens perchés qui pensent qu'à faire des toilettes sèches ou manger des graines. Enfin, même si
c'est pas perché de vouloir faire des toilettes sèches.
Mais que c'est pas leur slogan, quoi. Ils mettent pas sur leurs affiches, on veut des toilettes sèches. Il y a vraiment une critique
du système dans sa globalité.
Voilà, une critique du système capitaliste, du fait que le seul but du profit, ça va plus, ça va à l'encontre de la planète, et que notre façon de faire, quand ils disent blablabla, act now, c'est aussi une façon de critiquer les institutions qui finalement font beaucoup de blabla, mais finalement n'agissent jamais, quoi. Et puis alors, je voulais préciser que ça, c'était la mobilisation qu'il y a eu à Copenhague, mais il y en a eu en même temps que le sommet un peu partout, dans les villes, et notamment à Clermont. Ici, il y a eu... des associations comme Attaque 63, Greenpeace, Puy de Dôme Nature Environnement, Groupe Résistance Agression Publicitaire et Sud Étudiants qui se sont mobilisés ensemble, qui ont fait un ensemble d'actions. Il y avait des frises Place de Jeux, des conférences, des manifestations. Et puis, ça continue en fait. Ils ont essayé de continuer ça. Ils ont créé une commission qui s'appelle Commission Justice Sociale Urgence Climatique. Et leur but, là, ils ont pour but d'organiser un forum à la rentrée, là, en septembre, octobre, où on donnerait un ensemble d'exemples d'initiatives qui vont à l'encontre des fonctionnements participant au dérèglement climatique. Il y aurait un ensemble d'ateliers, et puis voilà, on va retrouver les coordonnées sur le blog pour plus d'informations.
On écrira tout ça.
Voilà. Et donc,
Il y a des limites à ces alternatives.
Oui, voilà. Donc, en fait, il y a eu ces manifestations. Il y a un ensemble d'alternatives, enfin, d'initiatives. Mais j'aimerais quand même dire que là aussi, le principe de responsabilité partagée mais différenciée existe pour nous, quoi. Donc celui qui pollue parce qu'il va au travail en voiture est beaucoup moins responsable que celui qui développe une répartition du territoire telle qu'on la connaît, avec des zones d'habitation d'un côté, des zones d'activité, de consommation éloignées les unes des autres. Là, en fait, ça rend forcément la voiture obligatoire. Donc voilà, le développement de nos villes a vraiment été pensé pour le développement des entreprises automobiles. Alors que celle-ci se vante aujourd'hui à la pub, enfin on voit toujours tous les jours des pubs où ils expliquent qu'ils participent à la réduction des émissions de CO2. Et c'est vraiment une blague parce qu'au contraire, ce sont ces entreprises qui sont principalement responsables et qu'il faut les dénoncer, dire enfin que elles sont responsables et pas hésiter à le dire, à le garder en tête et voilà que EDF, GDF, Areva, les autres, tout ça, ce sont enfin, des systèmes qui sont beaucoup plus responsables que chacun de nous.
Ouais, c'est vrai que quand on regarde la télévision, c'est toujours les pubs les plus vertes, les plus on est écologique. C'est les pubs de voitures et les pubs pour l'énergie.
Eh ben non, en fait, il faut bien retenir que non seulement ils n'agissent que pour le profit, mais qu'en plus ils ont un fonctionnement totalement pas transparent et que c'est tout pourri. Donc voilà, on va voir après une petite pause un autre exemple d'initiative qui là essaie d'être transparent et qui essaie d'être comment dire écologique, enfin responsable quoi vis-à-vis de la planète.
One dark and stormy night, Big John was feeling blue. Things didn't seem right, and he didn't know just what to do. Tell me, ain't you satisfied? He looked around so pitiful, and to me he replied, keeps on raining. Look how it's raining, Daddy, he can't make no time. Wind keeps blowing, cold winds blowing. Soon I'll find, in the winter time, when it starts to snow, I know, Bessie, you've gotta have some dough. Keeps on raining. Look how it's raining. Daddy, he can't make no time. Ain't the snow just beautiful? Some people say. But I'd rather see it in a fine movie play. Keeps on snowing. Look how it's snowing. Daddy, he can't make no time. No, your daddy, he can't make no time.
Émission Panthère Rouge jusqu'à 19h que l'on peut également écouter sur le blog de l'émission audioblog.arte.fr. arteradio.com/panthère-rouge. On continue avec Lise qui interviewe Johan sur la map d'EDA.
Oui, alors on vient de voir que la conférence de Copenhague a été un échec. Pourtant, on ne peut se satisfaire de ces changements climatiques et individuellement, on a envie d'agir. On s'est demandé si une manière d'agir ne pouvait pas être de monter et faire fonctionner une AMAP. Donc une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Alors si parmi les motivations à monter une AMAP, on retient surtout le désir d'avoir une alimentation saine, il y en a aussi plein d'autres, comme le désir de proximité des produits, de transparence des modes de production, et puis aussi il y a l'aspect auto-organisation et peut-être aussi le refus d'être un pion dans un système complètement opaque et complexe qui fait que l'on fait ce qu'on nous dit, qu'on mange ce qu'on nous donne sans se poser de questions. Et également peut-être aussi la volonté de dire que l'on peut faire autrement. Alors donc aujourd'hui, on a appelé Johan de la map d'EDA, cher à map. Bonjour Johan.
Bonjour.
Ça fonctionne. Alors donc, première question, quelles ont été les motivations chez toi et chez les autres amapiens d'EDA?
Je crois qu'il y a eu un superbe résumé qui vient d'être fait sur les différentes motivations qui peuvent pousser à créer une AMAP. En l'occurrence, sur le territoire d'EDA, c'est l'initiative d'une association locale de sensibilisation à l'environnement qui s'appelle Aquavert, qui avait organisé une conférence débat il y a maintenant 2 ans au sujet de l'alimentation, santé, environnement, et qui avait invité l'ensemble de la population à venir débattre sur ce sujet-là. On avait accueilli un certain nombre d'agriculteurs et le débat avait tourné pas mal sur la problématique locale qui parle du lac d'EDA qui est en train de se trophiser de manière un peu dramatique,
qui est
à l'origine d'ailleurs de la création de l'association Aquavert. Donc il y avait une idée localement de la protection d'un patrimoine naturel local qui est en danger.
Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce qui se passe dans le lac d'EDA?
Alors, lac d'EDA, il y a une eutrophisation qui est naturelle et une eutrophisation qui est accélérée par notamment les pratiques agricoles en amont du lac, dans la Vère, qui par le déversement de nitrates viennent combler le lac. Donc c'est un petit peu les pratiques agricoles qui sont en question. Et cette question-là de la responsabilité des agriculteurs nous a amené automatiquement à la responsabilité des consommateurs. Sur la question comment est-ce que les agriculteurs peuvent vivre de leur métier et quelle est notre responsabilité par rapport à ça.
D'accord.
Donc c'est, l'utilisation de ces nitrates, c'est pas pour le plaisir, c'est aussi notre responsabilité en tant que consommateur, et donc c'était l'idée, c'était de se poser la question comment on pouvait faire en sorte que ce processus-là n'aille pas aussi vite qu'il ne va aujourd'hui.
D'accord. Votre association, comment est-elle organisée?
Elle s'est créée en fait à la suite de cette conférence débat, par un appel aux gens de poursuivre la réflexion sur comment changer nos modes de consommation. Donc il y a des gens qui se sont inscrits, on s'est retrouvés pendant 1 an à se réunir, à débattre sur de ce qu'on voulait faire. Ça a débouché à la création d'une AMAP, ce qui n'était pas du tout donné d'avance.
Mm-hmm.
Et on a distribué un questionnaire à l'ensemble des boîtes aux lettres de la commune d'EDA pour connaître un petit peu les souhaits de la population locale par rapport à des modes de consommation et par rapport à la viabilité de la création d'une AMAP sur le territoire. On a eu plus d'une centaine de réponses qui nous ont encouragé à poursuivre. Et dans ces réponses-là, on avait un certain nombre de réponses qui disaient on souhaite des produits de qualité, des produits locaux, des produits avec une certification agriculture biologique. Donc ce qui a encouragé le groupe de travail à continuer et à créer une association, donc l'association Cher AMAP, qui a vu le jour maintenant il y a un petit peu plus d'un an. Et ce groupe de travail s'est prolongé sous la forme du conseil d'administration en fait de l'association, qui a mis en place les statuts, la charte qui s'est inspirée de celle des AMAP, et qui a créé un certain nombre de commissions pour ouvrir le fonctionnement de l'association à l'ensemble des adhérents. Donc on a une commission animation, une commission producteur, une commission solidarité, une commission communication. L'organisation, en fait, c'est un noyau de 10 personnes, d'une dizaine de personnes, qui est le conseil d'administration, qui se réunit à peu près une fois par mois, et un certain nombre de commissions qui se réunissent au fur et à mesure que les sujets apparaissent.
Alors en fait, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes finalement, je sais pas, une bande de gauchistes. Vous faites des réunions une fois par mois, vous avez fait un an de débat et vous avez des pratiques très militantes. Est-ce que vous êtes particulièrement gauchiste à l'EDA ou est-ce que, enfin, comment ça se fait en fait? Est-ce que c'était naturel? Alors, cette prise de conscience ou...
Alors ce qui est rigolo dans ce groupe de travail, c'est que c'est on s'est retrouvé autour de la table un certain nombre de personnes qui se connaissaient pas, hein, on va dire une 10-15 personnes, de sensibilités complètement différentes, d'âges différents, de milieux socio-professionnels complètement différents. Le seul point commun en fait qu'on avait, c'était d'être venu à cette conférence-là, donc déjà de se poser la question, et puis d'habiter sur le même territoire. Donc après, l'idée de ce qui a été très fort dès le début, c'est de se dire, bah, on va pas faire un truc entre nous, enfin, on va pas faire un truc entre nous ou entre gens qui pensent tous la même chose. On a bien distribué un questionnaire à toute la population de la ville, enfin du village et des alentours, pour ouvrir cette démarche-là à tout le monde.
D'accord.
Donc c'est pas du tout connoté politiquement. Évidemment qu'on a des réflexions qui vont recouper un certain nombre de sensibilités politiques et qu'on arrive à des conclusions qui sont pas productivistes, qui sont plus basées sur la solidarité, sur le respect de l'environnement. Mais c'est une association qui est complètement apolitique, tout en faisant de la politique dans chacun de ses gestes.
Bah oui, parce que déjà le fait de s'organiser en commission solidarité, etc., quand même ça fait penser à une certaine, enfin c'est,
je dis dans le mot de démocratie.
Oui, enfin oui, mais et cette idée.
Il n'empêche, l'association est quand même très structurée. Il y a un bureau, un président, un conseil d'administration. Il y a ce conseil d'administration qui est élu par l'Assemblée Générale. Les réunions du conseil d'administration sont ouvertes à tous les adhérents. C'est, en fait, un des maîtres mots de l'association, c'est la transparence. Que ce soit au sein de l'association, mais que ce soit aussi vis-à-vis des producteurs. C'est-à-dire que les producteurs aussi, dans la charte, ce qui leur est demandé, c'est de la transparence. Parce que ce qui est vraiment souhaité par l'association, c'est que chacun des adhérents s'approprie complètement les produits qu'il ingurgite, quoi. Ce qu'on met dans son corps, c'est quand même pas neutre. Donc l'idée, c'est que chacun ait conscience de tout ce que ça implique de produire une carotte, de faire un steak, de faire un fromage de chèvre. Voilà, d'avoir conscience de ce que c'est de tout ça. Et donc la transparence, ça vaut aussi bien dans le fonctionnement de la MAP qu'une exigence vis-à-vis des producteurs qui doivent nous ouvrir au moins une fois par an à l'ensemble des adhérents leur exploitation pour qu'on puisse chacun visiter, débattre et échanger autour des pratiques de l'agriculteur et puis du rapport qu'il a avec l'association.
Donc il y a vraiment cet aspect qui est important pour vous de formation, d'éducation, quoi.
Ah ben c'est presque une association d'éducation populaire en réalité. Mmh. C'est, comme je l'ai dit récemment, c'est presque le panier de légumes, c'est presque un prétexte en fait, hein, pour c'est une façon d'aborder un certain nombre de problématiques qui sont très vastes, l'alimentation, la santé, l'environnement, l'économie locale, par quelque chose qui nous touche tous, c'est manger, quoi. Manger, on est tous là autour à manger, et c'est une porte d'entrée fabuleuse pour se rendre compte de ce que c'est que la paysannerie, de ce que c'est qu'une agriculture respectueuse de l'environnement, de ce que c'est un lien social sur le territoire aussi, parce que c'est une association qui permet énormément de liens sociaux sur le territoire, puisqu'on se retrouve tous les jeudis soirs sur un même lieu, à échanger, à même à confectionner les paniers ensemble. Donc ça va bien au-delà juste de l'acte de manger, hein, et l'éducation populaire, c'est aussi par les visites de ferme et par un certain nombre d'animations qu'on est en train de mettre en place, qu'on n'a pas encore vraiment mis en place pour le moment parce qu'on a été un petit peu débordé par les côtés purement organisationnels, par la gestion des contrats, notamment avec les producteurs. Mais les animations, ça sera le maître mot de l'année 2010 pour Share un Map, avec des conférences, des sorties avec des sorties avec des intervenants spécialisés dans les plantes comestibles, par exemple, des projections de films avec en partenariat avec d'autres associations, des ateliers cuisine pour partager les savoir-faire, etc. Tout ça pour finalement échanger autour de pratiques alternatives à ce qui peut nous être complètement dispensé par les médias de masse. Mmh.
Bon, alors je voulais vous demander quels sont vos buts, mais vous en avez déjà dit beaucoup.
Oui.
Donc l'aspect d'éducation populaire, l'aspect de socialisation,
lien social, sur le territoire,
voilà.
Et la promotion d'une agriculture paysanne de proximité et respectueuse de l'environnement.
D'accord. Alors, en fait, je voulais me rendre compte un peu de comment ça fonctionne, combien de paysans on a besoin pour nourrir une population aujourd'hui si on fait de l'agriculture respectueuse de l'environnement et du paysan. Il y a 2 siècles à peu près, les rapports étaient inversés, beaucoup de gens étaient à la campagne et fallait environ 2 paysans pour nourrir un citadin. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, il y a quelques pourcentages, enfin il y a 3, 4, 5, 6% d'agriculteurs, je ne me prononce pas trop en détail, pour nourrir tous les citadins. Et donc, dans une AMAP, comment ça fonctionne? Combien de producteurs avez-vous et pour combien de consommateurs?
Alors, en termes d'adhérents, on est juste au seuil de réadhésion pour la nouvelle année, puisqu'on recommence au mois d'avril. On s'est un peu calé sur les saisons du maraîchage. On était 120 adhérents l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 70 nouvelles adhésions. On a à peu près 60 personnes qui contractualisent.
Ça veut dire que vous êtes combien en tout? Ça veut dire que vous êtes presque 200 ou vous êtes...
Non, on était 120 l'année dernière. Aujourd'hui, il y en a 60 qui réadhèrent. Donc, on va dire qu'on est à peu près...
Une centaine, quoi.
On pense qu'on est à peu près une quatre-vingtaine de foyers sur la commune et alentour.
D'accord.
2-3 communes qui sont autour. Donc, il faut savoir qu'à Eda, il y a 2000 habitants. Donc, on représente... une dizaine de pourcents de la population à peu près.
Ouais.
Et des producteurs, on a aujourd'hui contractualisé avec 7 producteurs. Donc
D'accord.
on a 7 producteurs différents, de productions différentes, qui sont partenaires de l'association, plus certains producteurs qui sont invités ponctuellement, comme des viticulteurs notamment, qui viennent une fois par an pour faire déguster leurs produits et puis parler un petit peu de leur production et puis... nous vendre de leurs bouteilles.
D'accord.
Voilà, donc après, répondre à la question de combien de consommateurs il faut pour un producteur et inversement, c'est très difficile à répondre comme ça, dans la mesure où ça va être très variable en fonction de la production. Par exemple, le paysan boulanger qui nous fournit en pain nous a expliqué que il était déjà en limite de charge avec Cher AMAP pour notre AMAP, hein, pour un soir, une journée. Il avait d'autres AMAP à côté. Le producteur de viande ovine et bovine, lui, il a 5 AMAP. Il en a besoin d'au moins 5 pour pouvoir vivre. Le maraîcher, lui, a diversifié ses voies d'écoulement de ses produits. Il fait des marchés, il fait de la vente directe de paniers par livraison. Et il a gardé, il a l'association qui est venue... greffer sur son organisation préalable il y a maintenant un an et demi.
Et comment vous fonctionnez vous fonctionnez toute l'année ou parce que tout à l'heure vous avez évoqué une coupure?
Oui, on fonctionne toute l'année.
Ouais.
Je ne sais pas à quel moment j'ai évoqué.
Non, peut-être qu'on adhère pour un an en fait, j'ai pas bien compris en fait.
Oui, si, on adhère pour un an, mais on s'est calé on fait d'avril à avril en fait.
D'accord.
Puisqu'on s'est calé sur la saison du maraîcher, on considère qu'il y a une saison été qui fait septembre-octobre, et une autre hiver qui fait octobre-mars.
Bon, et alors d'après les syndicats d'agriculteurs, notamment la FNSEA, les AMAP ne sont là que pour une partie de la population, en gros il n'y a que les bobos qui mangent bio, et seront toujours incapables de satisfaire tout le monde. Ils disent que l'autosuffisance en bio est impossible. Et donc, à votre avis, quelles sont les limites de la généralisation des AMAP?
Faut déjà regarder un premier chiffre, c'est que des AMAP, il n'y en avait pas tant que ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Je me souviens, il y a 5 ans, en Auvergne, il devait y en avoir peut-être, dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, il devait y en avoir 2. Aujourd'hui, Je pense qu'il doit y en avoir au moins une quinzaine en moins de 5 ans, donc ça fleurit. Et aujourd'hui, les AMAP se plaignent plus d'avoir trop, de pas savoir comment gérer le surplus d'adhérents que le contraire. Donc on n'en est pas encore à se dire à rechercher des consommateurs, quoi.
Mais vous pensez que c'est qu'on a une boboification de la population?
Alors, c'est une des difficultés, c'est une des questions que se posent toutes les AMAP, à laquelle ont trouvé une réponse les AMAP de Vic-le-Comte et la MAP de Clermont-Saint-Jacques, qui ont mis en place un système de péréquation sur, on va dire, une déclaration de revenus de chaque foyer. C'est-à-dire, quand on adhère à la MAP, on déclare ses revenus sur une échelle de 1 à 5. C'est du déclaratif, hein, il n'y a pas besoin de fournir sa déclaration, son avis d'imposition. Et en fonction de cette classe, hein, de 1 à 5, les consommateurs s'organisent pour que ceux qui ont le plus gros revenu payent 10% plus cher, 20% plus cher, 10% plus cher. Non, c'est 10 et 5, enfin, je ne sais plus exactement l'actualité dans ces AMAP-là, mais pour que ceux qui ont des revenus inférieurs puissent bénéficier, on va dire, d'une réduction des prix de 10 à 20%, voire 30%, je crois avoir entendu parler. Et ce système-là s'équilibre très bien. Après, les pourcentages peuvent être ajustés en fonction des tranches de revenus de la population.
Mais bon,
l'idée a permis à un certain nombre de personnes avec des faibles ressources d'accéder à ces produits de qualité et de soutenir activement cette agriculture paysanne et de proximité.
Oui, donc si on veut, on peut permettre à tout le monde.
Alors, à la MAP d'EDA, c'est pas encore mis en place parce que on a une commission solidarité justement qui réfléchit à comment mettre en place un système de solidarité entre les consommateurs. La difficulté que ça pose, c'est énormément de travail pour gérer tout ce système de péréquation, parce que c'est en réalité la MAP qui gère tout ça. Pour les producteurs, c'est complètement transparent. Lui, quand il amène un panier à 10 euros, c'est 10 euros. C'est les consommateurs entre eux qui s'arrangent. Donc c'est énormément de travail. Et aujourd'hui, la MAP d'EDA n'a pas trouvé de solution encore à cette question-là. Et invite l'ensemble de ses adhérents à venir participer à la commission solidarité pour ouvrir l'aspect solidaire entre les consommateurs. Aujourd'hui, ce qui a été mis en place, c'est la possibilité de régler en plusieurs fois. Parce que la solidarité au sein de l'association, c'est aussi vis-à-vis des producteurs. Et donc, quand on fait un contrat pour 6 mois, c'est un règlement, dans la mesure du possible, des 6 mois de livraison qui vont venir, donc par chèque, ou en 2 fois, ou en 6 fois, etc. Enfin, on a la possibilité de régler en autant de fois qu'on veut, en fonction de ses possibilités. Et on s'aperçoit que quand même la majeure partie des adhérents jouent le jeu et règlent dès le départ toute la saison. Ce qui permet aux producteurs, et on a eu un très beau témoignage des producteurs lors de notre dernier AG, il y a quelques jours de ça, où les producteurs ont dit c'est un vrai bol d'air de pouvoir enfin se dégager un salaire sur les mois d'hiver. Mmh. C'est le témoignage du maraîcher de dire c'est chouette, j'ai pas dû attendre le mois de juillet pour me verser un salaire, et ça c'est grâce à cet aspect solidaire de verser l'argent en avance, quoi.
Et donc, vous versez de l'argent aux producteurs en fonction de la production, ou en fait, typiquement un maraîcher, il ne peut pas prévoir s'il aura une bonne récolte ou pas. Comment vous gérez cet aspect?
Effectivement, et dans la mesure où il n'y a aucun producteur qui ne fonctionne qu'avec les AMAP, on n'a pas mis en place de système qui soit strictement conforme à la charte initiale des AMAP, qui est de définir le prix des produits en fonction de l'ensemble de la production. Les prix aujourd'hui sont fixés en partenariat entre l'association et le producteur, davantage sur des prix, on va dire, de marché que sur des prix de revient réel. Parce que aujourd'hui on ne sait pas le calculer de manière raisonnable sans entrer dans des détails qui sont extrêmement lourds, tout en étant extrêmement intéressant. Mais c'est.
Et puis rappelons que la MAP n'a qu'un an, en fait. Vous pouvez encore affiner votre fonctionnement.
Tout à fait. On est tout jeune encore. On s'est beaucoup structuré sur les contrats. On a vraiment insisté sur le fait de faire des contrats de manière à ce que les producteurs aient une visibilité par rapport à leur production. Et ça aussi, on a une éleveuse de volailles qui nous a bien expliqué qu'elle était ravie de ce fonctionnement-là, parce que sur les 6 mois où elle nous donne un calendrier prévisionnel en disant je pourrais avoir des pintades pour le mois de mai, des poulets pour le mois de juin, etc. Et les consommateurs, 6 mois à l'avance, disent moi je veux un poulet pour le mois de mai, 3 pintades pour le mois de juin, etc. Et donc elle peut organiser toutes ses productions et c'est une facilitation considérable pour elle de son travail.
Bon, alors j'aimerais poser une dernière question. En fait, je reviens un peu sur ma question précédente. La généralisation des AMAP, en fait. Pour vous, quelle est la limite, en fait, à la généralisation des AMAP? Qu'est-ce qu'il faut changer pour généraliser les AMAP? Est-ce que c'est pas possible?
Aujourd'hui, la grosse difficulté qu'on rencontre, et on l'a eu sur la map d'EDA, c'est les terres, hein. C'est l'installation d'agriculteurs, le maintien de cette agriculture paysanne, c'est d'ailleurs l'objet des AMAP, hein. AMAP, ça veut bien dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Aujourd'hui, on est un peu dispersé, et donc on n'a pas la possibilité d'établir un rapport de force avec l'industrie agroalimentaire, avec les politiques, pour encourager l'installation d'agriculteurs ou d'agriculture paysan, j'entends, et de maintenir cette agriculture paysanne. Donc aujourd'hui, ce qui fait défaut, la limite, c'est l'organisation d'un rapport de force entre la grosse machine et puis toutes ces petites actions locales qui sont dispersées. Alors il faut quand même savoir qu'il y a dans les régions des alliances, c'est pas le cas en Auvergne, hein, mais dans d'autres régions il y a des alliances, l'alliance Provence, l'alliance...
Des alliances pour acheter des terres.
Pardon ?
Des alliances pour acheter des terres pour.
Non, ce sont des alliances en fait qui sont des. Alors je connais pas exactement le statut, mais qui sont des sortes de fédérations d'AMAP.
Ouais.
Et qui peuvent de ce fait-là établir davantage de rapports de force avec les institutions locales. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle le MIRAMAP, le mouvement interrégional des AMAP, qui est en pleine constitution. Hein, c'est tout jeune, ça fait. La première réunion a lieu en décembre, à laquelle a participé Cher AMAP. Et l'idée, c'est de fédérer un petit peu toutes ces AMAP pour partager nos problématiques, nos buts, et établir un véritable rapport de force pour pouvoir installer des agriculteurs et encourager le maintien de ces agriculteurs sur leurs terres pour des productions paysannes, pour que les producteurs puissent avoir un prix rémunérateur de leur activité. Et pas simplement dépendre de subventions et et vendre leurs produits à perte.
Bon, Johan, merci. En fait, l'heure tourne. Merci beaucoup de votre témoignage. Ça nous a donné envie, en tout cas à moi, d'organiser ce genre de choses autour de chez moi aussi. J'espère que c'est la même chose pour nos auditeurs. Et puis voilà, bonne continuation. À bientôt.
Mais on se retrouve.
Merci, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
On se retrouve après une pause musicale.
Couper la parole, c'est pas.
Vous êtes toujours sur Radio Campus, l'émission Panthère Rouge. Et tout de suite, c'est notre chronique Femme Super-Héros, présentée par Cécile.
Oui, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Marianne Super-Héros, parce que anti-héros. Alors en fait, Marianne, on la connaît, hein, c'est la figure allégorique de la République française, donc coiffée de son bonnet phrygien, qui était en fait le symbole de l'affranchissement des esclaves, donc de la liberté. Et en fait, aujourd'hui, elle appartient finalement au paysage familier des symboles, si bien qu'on oublie qu'elle est avant tout la figure du combat pour la République, et en particulier pour la République sociale. Parce que Marianne, c'est une super-héros, parce que c'est vraiment... Elle est vraiment née, en fait, de la Révolution, et c'est une figure du combat. En fait, elle est née pendant la Révolution française, même avant l'établissement de la République. Et au départ, en fait, on a décidé d'incarner la liberté sous les traits d'une figure allégorique, d'une femme, avec ce fameux bonnet phrygien. L'idée, c'était qu'il fallait, en fait, donner, abolir et supplanter les symboles de la royauté. Susciter l'attachement des Français par d'autres symboles, par l'établissement d'autres symboles. Alors on peut se demander finalement pourquoi est-ce que la liberté puis ensuite la République a été incarnée sous les traits d'une femme. Et puis pourquoi Marianne finalement, pourquoi est-ce que il n'y a pas des bustes de la République dans toutes les mairies sous les traits d'un gros type à moustache qui se serait appelé Maurice, bon, on aurait pu le concevoir. En fait, Marianne, la République, c'est avant tout une femme, tout simplement parce qu'à l'époque, fin du XVIIIe siècle, il y avait cette tradition de représentation des vertus et des valeurs sous des traits féminins, à l'antique un petit peu. Et puis aussi parce que la figure de Marianne, en fait, elle s'est affirmée tout au long du XIXe siècle par des combats. Hein, tout simplement parce que la République, elle a mis quand même très très longtemps à être établie, et puis il y a eu des coups d'État, des restaurations, etc. Et en fait, durant toutes ces révolutions, durant ces différentes révolutions, eh bien, les femmes ont été des actrices essentielles de l'histoire.
Participer, ouais.
Oui, enfin, non seulement participer, mais on peut penser par exemple aux femmes sous la Commune. Marianne, justement, elle, c'est la figure qui monte sur les barricades, comme on peut le voir par exemple dans le tableau de Delacroix, très célèbre. Où on voit la liberté guidant le peuple, hein, c'est le titre du tableau, où on voit cette figure donc, coiffée du bonnet phrygien, vraiment avec la baïonnette à la main sur la barricade. Et donc voilà, c'est vraiment une combattante. Et une combattante jusqu'au XXe siècle aussi, parce que finalement, chaque fois qu'il y a eu la restauration de régime autoritaire, jusqu'à Vichy, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a enlevé les Mariannes, les symboles de Marianne. Hein, par exemple, la milice a déboulonné certaines statues, en fait, durant le régime de Vichy. Et Marianne, bah, elle est passée du côté des résistants. Quoi. On l'a vu fleurir sur les affiches, etc., à la libération. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, dès le 19e siècle, il y a deux figures de Marianne qui s'opposent. Il y a celle de l'ordre, hein, c'est vraiment la République de l'ordre conservatrice. Alors elle, on lui enlève son bonnet, elle est coiffée d'un casque ou d'une couronne, elle est solennelle, très sage. Et puis il y a celle de la Révolution sociale, hein, celle de la figure du peuple subversive, ardente, toujours dénudée un peu. Et Marianne, d'ailleurs, c'est un prénom en fait qui a été choisi parce que au départ c'était une chanson qui datait de la Révolution, une chanson très populaire. Et Marianne, c'était un prénom qui était donné dans le sud de la France, un prénom très très populaire. Donc Marianne, c'est vraiment le peuple. Alors en fait, à l'issue de ce siècle, de ces deux siècles, on pourrait dire de combat, on pourrait dire que Marianne, elle est sortie du combat idéologique pour entrer un peu dans le champ du folklore, hein, parce qu'elle n'a plus cette charge combative. Et puis elle a disparu des affiches électorales. Il y avait encore des Marianne sur les affiches électorales dans les années 50-60, sur les caricatures, tout simplement parce que, en fait, Marianne, c'est vraiment le symbole de la dépersonnalisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était qu'après l'ancien régime durant lequel la figure du roi était figurée, par exemple, sur la monnaie, où il y avait des portraits du roi, après aussi les régimes autoritaires du 19e siècle, pendant lesquels les mairies avaient des petits bustes en plâtre de Charles X, Louis-Philippe ou Napoléon III, on allait faire on allait incarner en fait la République sous les traits d'une femme, mais anonyme. Et encore aujourd'hui, dans les mairies, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le portrait du chef de l'État, qui est un homme et qui a toujours été un homme dans la République, et puis le buste de Marianne. Et en fait, Maurice Agulon, qui est un historien qui a étudié ces figures de Marianne, analyse l'effacement du recours à cette allégorie aujourd'hui comme la personnalisation, le syndrome en fait de la personnalisation du pouvoir ces dernières décennies, puisque Marianne, on l'a remplacée par des véritables personnes. Mais en fait, Marianne, on la retrouve quand même aujourd'hui utilisée notamment par la droite. Donc, j'en viens à ma dernière question. Marianne est-elle de droite ? C'est-à-dire que, par exemple, dernièrement, on a vu des affiches qui promouvaient le grand emprunt lancé par le gouvernement avec une représentation de Marianne, il y avait longtemps. Mais alors, Marianne, elle est sur ces affiches, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça date de février, elle est enceinte. Et c'est drôle parce que, aller faire la révolution enceinte, sur les barricades d'enceinte, c'est pas possible. Non seulement elle est enceinte, mais en plus elle est habillée en blanc avec le bonnet phrygien qui est blanc. Et le blanc, ça a toujours été la couleur de la monarchie, pas du tout celle de la République.
Ça remet la femme à sa place.
On a la promotion d'une femme reproductrice et pas révolutionnaire.
Ouais, c'est tout.
Voilà. Après Marianne Amazon, Marianne Matrone. Et donc Thierry Saucé, qui est directeur de l'information au gouvernement, explique le choix de cette affiche à un journaliste de France Info.
Des investissements d'avenir, on a assez naturellement eu l'idée de prendre ce très beau symbole de la maternité et donc de Marianne enceinte. Je pense que c'était une façon très, très symbolique et très belle de lancer ce programme d'avenir.
C'est assez original, presque iconoclaste. N'avez-vous pas peur de choquer ou de vous attirer les foudres de certaines associations, et notamment féministes ?
Non, parce que je pense que les associations féministes, comme nous, trouvent que la maternité, penser à demain, avoir une famille, sont des symboles qui valent pour Marianne ou pour la République exactement comme elles valent aujourd'hui pour les femmes et les familles françaises. Non, je pense que c'est surtout un très beau symbole positif.
Donc comment est-ce que Marianne, elle est redevenue mère ? Et alors, autre utilisation de Marianne, c'est le concours des Marianne d'or. Alors, le concours des Marianne
d'or,
c'est vraiment... Donc, c'est un concours qui est en fait organisé par une association qui récompense, je cite, les bonnes pratiques des élus et qui se veut le fer de lance de l'intérêt public, de la saine gestion des finances et de l'énergie du territoire. Et alors, sur leur site, cette association donc a le devoir d'accompagner sur le plan pédagogique la future et nécessaire réforme territoriale inspirée par la commission Balladur. Je cite toujours. Donc autant vous dire que cette association du concours des Marianne d'or récompense les élus en toute objectivité et en toute impartialité. Comme le montre ce petit descriptif. Et les anciens couronnés par les Marianne d'or sont des personnalités éminentes. Alors par exemple, on a il y a quelques années un jeune maire de Neuilly-sur-Seine qui aujourd'hui est président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a été élu Marianne d'or, ou encore le député Patrick Balkany, qui, comme on le sait, est une sorte de modèle d'intégrité et d'honnêteté politique. Donc là, pour la saine gestion des finances publiques, c'est pas mal. Et pour avoir donc, ces personnalités ont été récompensées sans doute pour avoir respecté la bonne pratique des 20% de logements sociaux à Neuilly ou à Levallois. Je pense pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le palmarès 2009, parce que bon, dans l'air du temps oblige, eh bien, les Mariam d'or ont été décernées cette année au nom du développement durable. Qui a reçu les Mariam d'or du développement durable? Pas seulement des élus, figurez-vous, aussi des entreprises. On mettra le lien sur le site. Donc, vers le site sur le blog, hein, vous pourrez aller voir vous-même. Alors, quelles sont ces entreprises qui ont reçu la Mariam d'or de développement durable? Eh bien, Air France KLM, classé leader mondial des compagnies aériennes pour le développement durable par le Dow Jones Sustainability, hein, le Dow Jones Soutenabilité, et Coca-Cola. Pourquoi? Parce que, pour son action... en faveur du recyclage des bouteilles vides pour les éclairages de Noël à Paris. Je n'invente rien, c'est sur le site. Et c'est ce même comité du concours des Mariam d'or qui a promu récemment Evelyne Thomas, nouvelle effigie de Marianne. Alors moi je propose au gouvernement donc que pour le prochain concours de la Poste pour donc élire une effigie pour le prochain timbre, hein, donc sous les traits de Marianne, je propose une Marianne avec la tête de Patrick Balkany mais enceinte, en train de boire un coca avec un avion Air France KLM qui passerait derrière. Et ce serait pas mal.
Qui fait du développement durable. Ouais, et tu voulais nous faire écouter
Alors voilà, je voudrais qu'on se quitte quand même sur un fleuron de la chanson française. Philippe Laville qui, dans les années 80, envisageait la possibilité d'avoir une Marianne Black.
Je préfère au Tamar, c'est pour dissiper les frimes. Marianne. Pour une république en hamac et nos ministres en Panama. La baraque et changerait le panorama. Marianne, comptez-nous bien et voyez soleil.
Et donc on va enchaîner avec l'agenda, peut-être.
Oui. Attends, on va peut-être avoir un petit fond sonore pour se quitter.
Un petit fond sonore, ce serait pas mal.
Voilà, c'est vachement bien. Donc l'émission se termine. Et alors, qu'est-ce que je fais quand je n'écoute pas l'émission Panthère Rouge?
Alors, à noter sur son agenda, il y a le vendredi 30 avril à 21h au Café Lecture Les Augustes, un débat sur la société... un débat organisé par la société Louise Michel, qu'est-ce que le néolibéralisme?
Ensuite, il y a l'association Anis Étoilée, donc Anis c'est pour Agriculture, Nutrition, Interculturelle, Solidarité, qui organise une soirée dégustation, projection, débat le vendredi 30 avril au cinéma Le Rio, avec le film Solution locale pour un désordre global de Colline Serrault.
Alors, vous avez entendu, on commence à parler des retraites. Donc, justement, si vous voulez participer à un débat sur les retraites, il y a le mercredi 5 mai à la salle Le Clancher. Ça sera en présence de Benoît Hamon. Et il y a tous les partenaires de la gauche solidaire, Front de Gauche, NPA. Je crois que le PS sera là aussi.
Oui, donc, forcément.
Ça sera intéressant, ça sera un vrai débat.
Pour le coup. Voilà, alors l'émission touche à sa fin, donc on l'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir?
Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Lisa?
Merci. Premièrement, 3,9 degrés d'augmentation de la température, c'est ce à quoi il faut s'attendre si on laisse faire nos gouvernements et nos bourgeoisies. Il faut donc agir, chacun d'entre nous, sans hésiter à remettre en cause nos bons modes de consommation et de production et leurs leaders. Ah, et deuxièmement, pour les AMAP, on a écouté donc Johan de l'AMAP d'EDA. Et on a vu que les AMAP étaient un lieu de réflexion qui vont au-delà de ce qu'il y a dans un panier.
Ouais, et Cécile.
Et sinon, contre le réchauffement climatique, on peut aussi compter sur les Mariam d'or,
les Mariam d'or.
Des entreprises
Merci
solidaires.
Merci Cécile, tu m'as cassé.
Mais je voulais dire aussi qu'on rendez-nous notre Marianne et qu'il faudrait qu'on récupère les valeurs et son effigie avant qu'elle soit représentée sous les traits de Nadine Moreno.
Voilà. Aïe, aïe, aïe. Rendez-nous notre Marianne révolutionnaire. Donc je tiens encore à remercier Johan qui a participé, qu'on a interviewé tout à l'heure. Donc cette émission est réalisée par Cécile, Lise et Claire au micro et Antoine aux manettes. On a entrecoupé nos propos par quelques musiques choisies par nos soins, notamment
Billie Holiday, Keeps on Running,
Les Yeux Noirs, Drogoydalneyou
et Electric Gypsy Land,
qu'on écoute tout de suite. Et aussi au début, il y avait Jurassic 5. Donc vous pouvez réécouter nos émissions sur le blog
audioblog.arteradio.com/pantarouge.
Et nous écrire, en particulier lorsque vous avez des infos chouettes à partager. On lit vos mails et ça nous fait réfléchir. L'adresse c'est
pantarouge, tout attaché, 93.3 en chiffres, @gmail.com.
On se retrouve le 2 mai et d'ici là, comme dit l'ami Colin,
surtout ne lâchez rien.
Et pour finir, baisson gros con.
Ah ouais, tu vas avoir des problèmes.
What's going through my mind? Half the time when I rhyme while blowing on my
bagpipes from Baghdad.